Ok, bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur, se nomme Chuck.
Je suis Chuck.
Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. Il a une opinion sur tout, son regard de feu vous enivrera, même si c'est un audio puis on peut pas le voir. Nick!
Hey, c'est moi ça, le regard de feu, wow!
Oui! Hey, t'as des beaux yeux, man!
Hey, merci, c'est fin.
Nick, c'est ta première fois ici.
Oui, c'est ma première fois.
Un petit background, en 10 secondes, on se connaît comment, je veux dire, de où?
C'est... Parce que c'est important.
Bon, je s'en sac un peu, mais bon, Nick, on se connaît depuis 5 ans, puis...
Oui.
On s'est perdu de vue.
Oui, en fait, on s'est rencontrés dans les soirées d'humour. Moi, j'étais soundman dans une autre soirée. J'allais voir les autres shows, puis je t'ai vu, je crois que c'est au Saint-Cyboire la première fois.
Mm-hmm. C'est une institution pour l'humour. Là,
exact. Après ça, on s'est revu une couple de fois, puis t'as comme mystérieusement un peu disparu, mais on s'était parlé avant ça. On s'était un peu attaché un peu.
Tout à fait. Puis là, ben, c'est ça, on s'est détaché, puis ça m'a fait beaucoup de peine. Je voulais juste te le dire.
Oui, oui.
Honnêtement, là, ça, c'est le moment émotif du show. Là, je me suis vraiment...
Mais tous les deux, on avait des vies différentes, je pense. Ouais. On avait des blondes contrôlantes, puis on faisait beaucoup de drogue, fait qu'on se parlait plus.
Tu sais, quand c'est trop vrai un peu, là, ah. Non, il y a comme des soupçons de vérité là-dedans.
Mais je faisais que des blagues.
Non, c'est des blagues, là, mais non, mais non, on n'avait pas de blonde contrôlante. On avait des bonnes blondes.
Voilà.
On avait
voilà.
Des très bonnes blondes. Elle est aussi tranchante que ses idées artistiques. Vous serez charmé par ses beaux cheveux, même si c'est un audio, vous ne pouvez pas l'avoir. Sarah!
Salut!
Allô, Sarah!
Ça va?
Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le show ensemble?
Ouais.
Une couple de semaines.
Ouais, ça fait longtemps. La dernière fois, c'était le chaos.
Ouais, le chaos. Oui, le non, chaos, en fait, ça, ouais, ça a été le chaos. Ça finit comme le chaos.
Vraiment beaucoup de monde, puis
c'était ouais. Chaotique. Ça finit à la fin qu'on était tous bien fatigués, voilà. Je pense.
Ouais.
Ça
finit comme ça.
Oui, absolument.
Voilà.
Merci, Sarah. Ah, Alex est prête. Drôle, enjouée, délicate, incroyable. Plein de synonymes qu'on trouve dans un dictionnaire. Elle a également un dictionnaire. Alexandrine!
Oh! J'ai des dictionnaires.
T'as des dictionnaires, t'en as plein. Le Larousse, le petit mm-hmm. Robert.
Ouais,
le petit Paul.
Multi.
Le multi.
Il y a de la grand-mère,
donc en carton.
Ouais, c'est vraiment.
As-tu cool. Les trois Becherelles ou.
J'en ai seulement qu'un. Ah, okay. Mais j'ai aussi le Hachette.
Ben, regarde, je vais le dire là directement. Si t'as, pas les trois, si t'as pas les trois Becherelles, t'es une illettrée. Je peux juste te le caler comme
ouais,
ça.
Ouais, mais j'ai une grand-mère depuis secondaire 1.
Moi, j'ai une grand-mère depuis que je suis née.
Ouais, moi aussi.
Et moi, j'ai de grand-mère.
Salut, Alain! À chaque semaine, on pige des sujets, on sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard aujourd'hui, c'est lundi, ce qui veut dire que c'est moi, Chuck, qui débute la semaine en pigeant le premier sujet du Petit Bonheur.
Pourquoi est-ce que lundi, ça veut dire que c'est toi qui commence?
Ouais, bon, ça. Là, tu vas-tu déjà commencer à questionner le show? C'est correct, c'est bien correct. Tu peux questionner le show. Je vais piger le sujet, mais toi, tu vas le lire. Ça te va, ça?
Oui.
OK, vraiment surprise, puis pas...
T'étais mieux, genre, que je participe.
Je veux lire, go!
Je vais être participatif. Tu le lis à voix haute. Alors, le premier sujet que j'ai pigé pour le lundi, on salue tout le monde qui sont sur Berry UQAM présentement, qui écoutent le show.
Meilleur film de la vie.
Mm-hmm.
Meilleur film de la vie,
c'est ça. On a 20 minutes pour parler, 10 minutes pour parler de ça. C'est pas compliqué.
Waouh, comment on synchronise notre... Comment on gère notre temps, là?
C'est
pas compliqué, moi, je le vois sur le... Quand je suis prêt à enchaîner sur le deuxième sujet, je le vois, je dis on enchaîne sur le prochain sujet.
OK.
C'est bien facile. Meilleur film de la vie, j'en ai acheté plein récemment, plein de films qui m'inspirent. Je peux pas dire j'en ai un qui est préféré. J'en ai qui. De la vie, genre non. Mon film préféré, non. Genre Citizen Kane, OK, c'est facile, c'est cliché. Mais...
Tu sais, j'ai
facile.
Tapé sur le micro, je suis en désolé.
Pourquoi t'as fait ça?
Mais parce que je voulais dire mon idée.
Le monde est frustré présentement dans leurs écouteurs. Ils entendent ça dans le métro, genre... ils sont frustrés.
Elle a fait Citizen Kane en code morse.
Ah, c'est ça.
Non, c'est pas ça. Pas mes films préférés, mais j'ai comme trois films que j'aime beaucoup.
Que tu réécoutes?
Que je réécoute. J'aime beaucoup Trainspotting.
De Danny Boyle.
Ouais. Trainspotting, j'aime vraiment, 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 vraiment ça. Aussi, Grand Budapest Hotel.
Oh, de Wes Anderson.
Ouais. Puis...
Que t'as pas beaucoup de recul dessus, parce qu'il est sorti l'année passée.
Non, j'ai pas beaucoup de recul. Mm-hmm. Mais en fait, je l'aime beaucoup parce que comme mon copain, il comme, capote dessus. Puis là, je me suis ramassée à l'écouter quand même souvent.
Fait que c'est pas un attachement, non, mais, ça fait pas non, comme 10 ans que c'est ton film. Non, mais
j'aime beaucoup comme l'esthétisme du film. Là, ça, c'est juste trop beau, là. C'est
tout est...
Puis sinon, j'aime aussi Mr. Nobody.
C'est qui, Mr. Nobody?
Je sais pas c'est qui.
Non, non, mais... Mr. Nobody, c'est quoi
le film? Je sais pas le réalisateur, mais c'est avec Jared Leto.
Ah, oh, un film de filles.
Non, c'est vrai, c'est un film très girly, là. Comme ça reste un film de un film d'amour, là, un peu. Mais c'est comme un vieux monsieur à une époque où il n'y a plus personne qui est vivant, qui est mortel, genre. Mais lui, c'est le dernier des mortels.
Je voulais le voir en plus.
Il dit tous ses souvenirs, mais c'est un long film. C'est vraiment un long film, puis il n'y a pas beaucoup d'action.
Un film de filles.
C'est un... j'aime pas ça dire ça comme ça. Mais
En disant chick flick, ça passe-tu mieux ou...
Non. Non, mais mon frère, qui est un garçon, a aimé ce film-là.
D'accord.
Fait que je sais pas, parce que mon frère c'est une fille, vu qu'il a aimé un film de fille, je sais pas. Mais en tout cas,
ça...
bref, voilà, c'était mon Monsieur top 3. Nobody.
Ouais. Ben, film en fait que j'ai pas vu, mais que je voulais voir, il était dans ma liste des trucs à voir avec Sarah Polley et Diane Kruger. Oui. Qui joue là-dedans.
Donc, sur les trois, ça serait quoi ton préféré?
Trainspotting. Moi, j'ai vraiment...
C'est un classique aussi de Danny Boyle. Il a fait un excellent, excellent film. Ça se passe dans un boil de toilette.
Dans un boil de toilette. Non, mais c'est très bon. Puis on dirait que, en le voyant, j'avais vraiment le goût de faire de l'héroïne.
Tu vois, moi, c'est arrivé que Requiem for a Dream, j'étais comme, wow, c'est sûr, faut que je commence là-dessus. Encore un autre film avec Jared Leto. Excellent film. Nick.
Oh, je suis pas un fan de Jared Leto. En fait, je vois pas son visage dans ma tête quand vous dites le nom. Moi, je vois juste des filles en pyjama qui regardent la télé.
Tu vois pas le chanteur de 30 Seconds to Mars? On a parlé de
films de filles.
Yo! Jared Leto, pas juste fait des films de filles.
Ah, donc, est-ce que t'as vu Dallas Buyers Club?
Ouais, t'as-tu vu?
Oui. C'est la queer.
Bon,
c'est la queer là-dedans.
Mm-hmm. Rayon.
Il joue dans 30 Seconds to Mars.
Il joue.
Ben, c'est le chanteur.
Ah, oh, ok. Ouais. Oui, ben, c'est parce que, oui, dans le film, il y a pas de barbe parce qu'il joue une queer.
C'est queer, effectivement. Mais ce gars-là a joué dans. Comment ça s'appelle le film avec Nicolas Cage qui était assez bon, un des seuls bons films récents de Nicolas Cage.
Nicolas.
Lord of War, qui est un vendeur d'armes, il joue le frère de Nicolas Cage là-dedans. Oui. Il a joué dans Requiem for a Dream, qui était aussi un excellent film.
C'est 2001, là.
Ouais. 2001. Vieux film d'Aaron Aronofsky, là, qui avait fait Black Swan récemment. Non, Jared Leto a fait des bons rôles, en fait. Il a fait un film où il a pris comme 100 livres, juste pour. Oh, ouais. Ouais, pour. Il jouait le gars qui a tué. Chantal des Beatles.
John Lennon.
John Lennon. Il jouait là-dedans. Il a joué là-dedans. Il a pris
beaucoup. Il avait une chance sur un. Hein.
Oui, John Lennon. Ben non, mais j'aurais pu dire McCartney qui a comme quand même participé
à chanter. Il est pas mort assassiné.
Non, il est pas mort assassiné. Parce qu'il est juste pas mort. Ouais.
Voilà.
Ma gueule. Ben George Harrison. George Harrison. Ouais. En tout cas, on vient sur l'émission, là, ça enregistre. T'es le film à toi, Nick.
Qu'est-ce que t'aimes?
Moi, pour faire la petite histoire de mon film favori, que j'ai pas le choix, il y en a d'autres des films que j'aime, mais celui-là, c'est Le Cinquième Élément. De
Luc Besson.
Oui. Luc Besson.
Avec Bruce Willis.
Et surtout Mila Jovovich.
Oui, surtout.
J'étais dans une sorte de magasin général dans la ville où je vivais, puis ma mère m'a dit « Ah tiens, si tu veux prendre un livre, prends celui que tu veux ». Puis j'ai pris le livre comme pratiquement le moins cher, là, genre comme 8,99 livre de poche. La pochette, on voit rien dessus, il n'y a rien qui m'indique de quoi ça parle. J'y lis en arrière, puis ça me dit pas grand chose non plus, mais c'est comme le moins cher de la gang, il se porte bien, puis je fais comme, ah ben, je vais prendre ça.
Il se porte bien.
Mais en ne sachant pas que c'était le livre tiré du film et non pas le scénario.
Okay.
Et non pas le livre du scénario, donc c'est le livre tiré du film.
Okay. Le
donc,
film a été pas... fait avant le livre.
Ben, le scénario a été écrit... Luc Besson a écrit le scénario quand il avait 14 ans.
Okay.
Et avant, probablement, mais à partir de l'âge de 14 ans, il était pas mal cerné. Fait que le temps qu'il se ramasse à l'âge de 44 puis qu'il fasse le film...
Il avait des cernes de quelle couleur, à peu près?
Qu'est-ce que tu veux dire?
Tu dis, il était pas mal cerné.
Non, mais il y avait
un gag de cernes.
Sacré
fait. Quand il a su que son scénario n'était pas poche, hein, les yeux pochés, cernes, voilà.
Oh my God!
Ben ouais. Bon, c'est ça. Fait que j'ai eu le livre, oui. J'ai commencé à le lire, puis au début, ça commence comme 1944. Puis j'ai fait, ça se passait pas dans le futur, ça. Puis j'accrochais pas trop, j'étais un peu jeune, je l'ai mis de côté. Puis je suis allé en camping, dans un chalet, faire une histoire courte avec mes parents, puis j'arrivais pas à dormir, puis j'ai lu le livre presque au complet avec ma lampe de poche sous les couvertes.
Sous les couvertes.
Ouais. Ben, tu sais, quand tu veux pas te faire pogner par tes parents à lire en cachette, tu sais, alors j'ai 12, 13 ans, je me souviens pas trop. Puis.
Moi, j'avais d'autres choses en dessous des couvertes, là, à 12, 13 ans.
Oui, mais. Je vous rappelle qu'il y avait Mila Jovovich et je voyais les images.
J'avoue.
Mais je le savais pas encore. J'ai lu le livre.
D'accord.
Après ça, j'ai su qu'il y avait un film parce que j'avais pas lu que c'était écrit livre tiré d'un film sur le papier. Puis. J'ai fini par voir le film à l'école, en secondaire 2.
Okay.
Puis tout le monde l'avait déjà vu, pratiquement, parce que c'était quand même un gros film. Moi, je l'avais pas vu, mais j'avais lu le livre, puis il fallait faire des questions dans la classe sur le film. Puis moi, j'avais le livre chez nous, fait que je pouvais poser des questions super difficiles, puis je pouvais répondre à tout ceux que tout le monde, parce que je le connaissais par cœur. Je l'ai loué. Je l'ai vu à la télé en anglais, en français, en anglais, en français, en anglais, en français pendant des années. Donc là, je dois l'avoir vu comme une quinzaine de fois, le film, en anglais et en français. Je sais les bouts qui manquent quand il joue à TV et qu'il y a des annonces.
Il coupe vraiment
beaucoup.
Ça, TVA, surtout,
j'ai relu le livre plus tard, alors j'ai 20 ans encore une autre fois. Fait que, par défaut, c'est mon film préféré parce que j'aime la science-fiction. Ouais. Luc Besson est excellent. Puis savoir qu'il a écrit ça quand il avait 14 ans, il y a beaucoup de fantasmes d'auteurs de science-fiction là-dedans. Puis Bruce Willis.
Effectivement.
Et Mila Jovovich, qui était mon fantasme d'adolescence.
Ensemble, ça marche.
Et que j'ai de la misère à penser à d'autres films quand on me demande c'est quoi mon film.
Écoute, tu l'as tout à fait. Je veux dire, Chris Tucker, encore une fois.
Oui.
Performance exceptionnelle. Corbin Dallas! Et puis, ce que j'aime aussi, c'est que le film, il part de Luc Besson qui avait fait Léon le professionnel, qui était aussi un grand film avec Jean Reno qui faisait ça. Puis ce que j'aime, c'est le plus grand peut-être réalisateur / producteur international français qui existe, Luc Besson. Tout le monde le connaît, tout le monde a fait un film avec lui. Puis il y a beaucoup d'acteurs et actrices américaines, très respectés, qui veulent faire avec Luc Besson
un film. Absolument. Puis dans le film, il y a Gary Oldman qui joue Jean-Baptiste Emmanuel Zorg.
Gary Oldman. Est-ce que... Je veux dire, c'est une performance assez excentrique qu'il a faite, mais je veux dire, ça reste le commissaire Gordon pour moi.
Mais il est méconnaissable là-dedans.
Oui, effectivement, tu le reconnais pas du tout, je veux dire, avec son espèce de truc en plastique, son chapeau de juif en plastique. Ouais, c'est ça. Quand même assez incroyable. Le cinquième élément, vous devriez voir, c'est un excellent film d'action.
Je l'ai pas vu, mais tu sais que je te demande souvent, Chuck, propose-moi un film.
Oui, c'est quoi le dernier film que je t'ai proposé?
C'était avec Mark Zuckerberg puis Keira Knightley.
Keira Knightley. Et avec Mark Ruffalo, ça s'appelle Begin Again, qui est un film de musique. J'avais recommandé, c'est une petite comédie légère sur la musique.
Mais ça, je t'ai demandé. J'étais comme, j'ai rien à faire. Propose-moi un film bien relax.
Le pire, c'est ça, c'est que tu me dis ça, puis Nick, vous parlez tout de comme plein d'acteurs, de réalisateurs. Moi, j'ai comme une camisole de force présentement. J'essaie de me retenir pour parler de films, parce que je suis un movie buff. Je trippe sur les films dans tous les styles du terme de incroyable. Fait que je vais pas dire de film préféré, je vais dire un film que j'ai bien aimé dans toute ma vie, qui s'appelle Punch Drunk Love. C'était avec Adam Sandler. Un film de Paul Thomas Anderson. C'est l'histoire d'un homme qui a pas vraiment de vie, d'histoire, quoi que ce soit.
Oui. Oui, c'est avec Adam Sandler, là, la pochette blanche et bleue, exact.
Adam Sandler, mais comme il est pas drôle.
Non, c'est un rôle dramatique.
C'est ça, parce que genre, j'étais comme Adam Sandler. Récemment, là, tout ce qu'il fait, c'est genre.
Ouais, mais t'as pas vu
Click. C'est à vomir.
T'as pas vu Click.
Là, j'ai vu Click, puis j'ai braillé.
Moi, j'ai pas vu Click.
T'as pas vu Click? OK, moi aussi, j'ai pleuré.
Puis j'ai pas vu Trainspotting non plus.
Okay. T'as pas vu Trainspotting? Ah, Colin, t'as des
films à voir. Puis j'ai pas vu Harry Potter. Puis j'ai pas vu Le Seigneur des Anneaux.
Non plus.
Puis j'ai pas vu toutes les Star Trek, ça a l'air que c'est grave.
Star Trek, non.
Peut-être pas avec vous, mais il y a d'autres... Non, Star Wars, j'ai pas vu épisode 2 et épisode 3.
C'est correct, c'était pas les meilleurs.
Puis, il y en a d'autres comme ça, mais habituellement, les gens, ils me sautent à pieds joints d'en face là, quand je dis que j'ai pas vu des films.
Ça gosse. Je dois t'avouer, là, moi, j'ai déjà été une de ces personnes-là qui a fait t'as pas vu 500 Days of Summer? T'es qui? Tu devrais mourir. Puis, je me suis rendu compte que c'est juste désagréable de dire ça à quelqu'un qui semble comme un inculte tout d'un coup parce qu'il a pas vu un certain film.
Quand on avait un certain âge, puis qu'il y avait pas les YouTube, puis qu'il y avait pas les torrents, qu'il y avait juste le club vidéo, puis que tu avais juste ça, écouter des films, puis que quelqu'un disait « Quoi? T'as pas vu ça? » Ça se pouvait que t'étais un épée de pas l'avoir vu, tu sais. Mais moi, j'écoutais des films avec mes parents, tu sais. J'ai vu le film de Picasso. As-tu vu le film de Picasso? Non, personne ne l'a vu. Moi,
avec Anthony Hopkins?
Exact.
Oui, c'était un excellent film.
Ben, c'est ça, mais moi, j'ai vu ça à un âge où je m'en sacrais, tu sais. Mais j'ai vu ça au lieu d'écouter Alien, tu sais.
C'est excellent. Je veux dire, on regarde toute une... Si t'as vu juste des autobiographies, justement, comme Chaplin ou Picasso, ben, tu sais, tu vas voir un film d'action, tu vas voir un Fast and the Furious, tu vas trouver ça, bon, vraiment lourd, puis vraiment plate. Puis tu vas jamais triper vraiment, tu vas faire comme, il n'y a pas d'histoire, c'est plate.
Mais c'est pas tant ça, le jugement, c'est le temps utilisé. Tu sais, c'est le fait que j'ai regardé autre chose, donc j'ai pas regardé ce que tout le monde a vu, parce que je faisais autre chose à ce moment-là.
T'as pas vu ce que j'ai vu, fait que t'es une merde, genre.
Ouais, c'est un peu ça, mais tu sais, il y a des films que c'est normal. S'il y a 700 millions de personnes qui l'ont vu dans le monde, t'enlèves les pauvres, le tiers-monde, puis tout ça, c'est un peu, tu devrais l'avoir vu, par défaut, à quelque part, à un moment donné.
Ouais. Moi, j'ai vu Titanic. Nick, as-tu vu Titanic?
Je l'ai vu au cinéma.
Je l'ai pas vu.
Tu l'as pas vu? Ok, je veux pas te spoiler, mais je vais te spoiler pareil. Le bateau, il coule à la fin.
Non, mais... Oh!
Je te jure.
You don't see.
Moi, je l'ai vu, mais j'avais pas compris ça.
Non, hein, parce que qu'est-ce que t'avais compris à propos du bateau? C'était genre, il rentrait dans une autre dimension. Ouais. C'est ça, hein, il rentrait dans un...
C'était pas un film de science-fiction.
Ben oui, ça en était un.
Il y avait des extraterrestres.
Ben, c'est James Cameron qui l'a fait.
Jack, il se gèle, puis...
Il
un alien.
Il vient d'un alien.
C'est ça.
Mais ben, c'est James Cameron qui a fait ça. Je veux dire, avant, il a fait Terminator. C'est clair qu'il faisait en fait, Leonardo DiCaprio, c'est le Terminator. On pense que c'est Arnold, mais c'est Leonardo DiCaprio qui joue Arnold Schwarzenegger, qui joue Terminator.
Moi, mes films
un peu comme
préférés?
Tropic Thunder. C'est comme quatre acteurs en un. Alex, ton acteur ou ton film préféré?
Ben en fait, de ma courte vie, j'ai pas eu tant de films. Donc, je vais proposer des choix. Ça va l'air cliché, mais j'ai vraiment aimé Pulp Fiction. Voilà,
ouais.
Puis sinon, bien, bien girly, j'ai aimé 10 Things I Hate About You avec Heath Ledger.
Quel film de... d'ado. D'ado, pas de film, d'ado.
J'ai écouté quand j'étais petite, puis j'étais comme, je n'arrêtais pas de l'écouter. Mais
avec Julia Stiles.
Un culte d'enfance, là.
Regarde, ça l'a été pour moi aussi. Je l'ai écouté comme 10 fois en cassette.
J'ai pas vu ce film-là.
Non plus,
c'est correct.
C'est un film d'ado.
J'ai pas vu Pulp Fiction.
Ah, ça, c'est
mais là, ça c'est grave. En fait, c'est grave.
Ça, c'est grave. Ça,
c'est grave.
Ça, on va juger, là.
Vous avez dit, genre, faut pas juger. Oh my god, t'as pas vu ça.
Mais c'est
là,
grave.
Je vais dire ça, puis vous venez tous de vous contredire.
Non, non, on se contredit pas parce que t'as pas vu Pulp Fiction.
Mais t'étais né en 94. Là, c'est pas normal que tu l'aies pas vu.
Non, j'étais pas né en 94. Je suis jeune.
Ah, en 95.
En 95.
Je voulais pas dire que t'avais l'air vieille, là, c'est pas...
Non, non, non.
Mais moi, je suis en 95, puis je l'ai vu. Tout cas.
Mais je l'ai pas vu.
C'est le meilleur de ta vie.
Je l'ai pas vu parce que je me suis toujours endormie. Mais pas endormie ou genre, tu sais, mettons, j'ai fait autre chose.
C'est Chuck, c'est pas que c'est le meilleur film de Tarantino. En fait, c'est qu'il y a c'était des bases dans la déconstruction de l'histoire. Puis avec
ça
les...
se rejoint tout, puis c'est parfait.
Exact, mais puis avec la qualité des acteurs, puis le sujet, puis la densité du texte, puis...
L'humour.
Puis, en même temps, ça peut être regardé légèrement, parce qu'il y a de l'action, puis il y a Bruce Willis, puis il y a des choses comme ça. Mais tu... Il n'y a pas personne qui regarde ce film-là de la même façon. Puis même après l'avoir écouté trois fois, je comprends toujours pas où ce qui s'en allait avec ça.
En fait, tu es en train de soulever un point que je vais vous poser la question juste par oui ou par non, vous me le dites. Mais si on a un film qui peut s'écouter d'une manière très casual, d'une manière, je vais pas penser, je vais juste voir les scènes s'entrecouper d'une façon à l'autre, mais qui peut aussi en même s'analyser et devenir extrêmement profond, comme par exemple un film de Christopher Nolan qui va avoir une couche très commerciale, très facile à voir au début, mais que si tu l'analyses, c'est parce qu'il y a comme 50 différents paliers de niveau dans ces films-là. Est-ce que vous pensez que ces films-là sont souvent bien meilleurs que n'importe quel autre film qui se classe dans vos numéro 1? Tu sais, justement, les films de...
ceux qui sont...
Qui sont faciles, tu sais, on va dire commerciales.
Une sauce hollywoodienne, mais il y a une densité.
Et avec une densité puis une histoire de films d'auteur, par exemple.
Ouais, je comprends.
Est-ce que vous pensez que ces films-là, justement, c'est peut-être vos meilleurs films? Parce que moi, je pense à ça rapidement, je me dis, ben oui,
je suis d'accord avec toi. En fait, tous les films de DiCaprio sont comme ça. Ils ont la sauce hollywoodienne, mais ils ont la profondeur en dehors du jeu d'acteur. Puis tout ça, là, il a choisi le scénario parce qu'il y avait quelque chose à dire. C'est bien fait, c'est bon réalisateur, des bons comédiens, tout ça. Mais en arrière de ça, il y a un message ou il y a une morale. Ou il y avait une histoire à raconter qui n'était pas juste, ben tu savais pas ça, tiens, je t'ai dit. L'histoire, je te raconte. Là, il y avait quelque chose en arrière.
Rapidement de même, ton meilleur film de DiCaprio, là, si tu y penses là, rapidement, le premier qui te pop en tête.
Catch Me If You Can.
C'est un excellent film.
Qui est probablement, si je dirais pas, Cinquième élément pour mon film préféré. Si je ne
Catch Me If You Can est un... Il va se ramasser dans mon top 10 aussi, de Steven Spielberg. Ouais, c'est juste un merveilleux film de chat et souris avec Tom Hanks.
Et qui est comme trois films, en fait. Oui. À chaque fois que je pense à Catch Me If You Can, je fais « Ah oui, c'est vrai, il y a ça dans le film. » Ah
comme,
oui, c'est vrai.
C'est comme trois histoires. T'as l'histoire de l'inspecteur, t'as l'histoire de DiCaprio, t'as l'histoire de son père aussi, que je pense, Christopher Walken, qui est excellent là-dedans.
Mais il est aussi médecin, il est pilote d'avion, puis il est avocat. Oui, fait que c'est plusieurs films, un dans l'autre.
L'as-tu vu?
Non.
Ça devrait être un de tes films préférés, je pense. Si tu l'écoutais, tu fais comme « Wow, il y a beaucoup de... »
Mon film préféré?
C'est quoi ton film préféré?
Mon film préféré, tu le sais?
Non.
Mais nous, on le sait déjà dit. En tout cas, pas grave, ça fait pas longtemps. C'est un récent film, là, mais j'arrête pas de l'écouter.
Frozen?
Ça Café de Flore.
Wow!
J'aime fou, ce film-là. Ouais. Jean-Marc Vallée.
Jean-Marc Vallée?
Ouais. J'aime
c'est
ce
tellement bon, celui-là.
Comme ça, je trouve que ça fait... Ouais, je sais pas quoi commenter.
Non, c'est un excellent, excellent film. En fait,
je trouve que c'est original, un peu comme... Ben, pas original.
Il se classe au top des réalisateurs Jean-Marc Vallée, je pense. Je veux dire, moi, j'ai trippé Crazy, puis Café de Flore, de manière incroyable. Puis après ça, il a fait Texas Buyers Club.
Dallas Buyers Club. Pas de Texas.
Qui était incroyable, qui a été prisé aux Oscars. Et là, il s'est en train de sortir Wild avec Reese Witherspoon, qui... Et ce gars-là a une vision.
Ouais, une très...
Y a-t-il des bons réalisateurs québécois que vous avez en tête? Je veux dire, moi, je pense à Philippe Falardeau, je pense à...
Pods. Un film de Pods.
Miraculum comment c'est?
19-2.
7 jours du talion. 19-2! Claude Legault, les fesses de Claude Legault.
Est-ce que vous avez vu... c'est Denis Villeneuve, je pense, qui a fait Prisoners?
Prisoners? C'est...
Oui. C'est lui. Est-ce que vous avez aimé ça?
Avec qui? Oui.
Moi, j'ai trouvé ça... malade.
C'est vraiment bon.
Genre, le jeu d'acteur de Jake Gyllenhaal, qui c'est pas comme ça qu'il faut prononcer son nom.
Jake Gyllenhaal?
Je l'ai entendu dans une entrevue le dire vraiment autrement, mais en tout cas,
lui-même... Il appelle Paul Robert,
en fait. En tout cas, bref. Mais je le trouvais juste fou, genre, c'est tic comme nerveux, là, tout au long.
Fou gars.
Voilà.
Pareil, fait une très bonne performance dans Nightcrawler, qui est sorti récemment, qui joue un espèce de gars qui va filmer des scènes d'action à Los Angeles, puis en tout cas... Mais oui, les films de Denis Villeneuve. C'est un Villeneuve qui avait fait Incendie auparavant.
Ouais. Oui, Incendie, ça. C'est écœurant, ouais, c'est quelque chose.
Très, très bon.
Ouais, ouais. Mm-hmm. Mais ça s'écoute comme on lit un livre, j'ai l'impression, ce film-là.
C'est la pièce de Wajdi Wawad que j'ai vue en plus. Une pièce qui dure comme 4 heures. Ouais, elle dure 4 heures, la pièce.
Ah ouais.
Ouais. Et c'est excellent. la pièce est vraiment, vraiment excellente. Que j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu faire une adaptation au cinéma d'Incendie. Mais en même temps, j'ai lu 99 francs, puis j'aurais pas pensé qu'on aurait pu faire un film au cinéma avec Jean Dujardin avec ça. Puis ça a fait un film excellent aussi. Donc, voilà. Je recommande pour ceux qui n'ont pas vu encore Incendie. Puis je veux dire, guess what? Il était en nomination aux Oscars pour meilleur film en langue étrangère. Là, fait que c'est un bon film.
C'est drôle qu'ils disent 99 francs, parce que moi, disons que c'est ma révélation des années 2010, mettons. Là. Mm-hmm. Je l'ai vu tard, ce film-là, mais ça m'a donné le goût de lire le livre. Tout le monde me dit, le livre est écœurant, le livre est écœurant. Je prends pas assez le temps de lire parce que, bon, voilà. Mais 99 francs, c'est assez génial. Puis c'est un milieu qui me parle beaucoup, beaucoup, la publicité, puis gérer l'image et tout ça. Mais moi, je suis quelqu'un de l'envers du décor, puis de voir... qu'est-ce qui s'est passé avant que ça devienne de la bouillie pour chat à la télé. Là, il y a eu des créateurs qui ont eu des bonnes idées avant tellement que ça bon devienne ça de la merde.
Oui.
Puis 99 francs n'est pas de la merde.
Non, pas du tout. Je suis allé voir le film avec ma mère qui a travaillé 30 ans en publicité. Oh. Fait que ce qui était le fun, c'est de l'avoir à mes côtés et de faire « Ah, oui, ça c'est vrai. Ah, oui, ça c'est vrai. » Quand ils vont... La bouillie, comme on dit, c'est la bouse de dernière minute.
Oui, voilà.
Où est-ce qu'ils vont sortir une publicité, ils vont sortir un concept à chier.
Pour une annonce de yogourt.
Pour une annonce de yogourt, va prendre 30 secondes à faire, mais que le propriétaire va être content d'avoir à la place d'une idée vraiment incroyable, extraordinaire, innovatrice. Fait que, puis ça regarde, puis encore la même maudite affaire que toutes les... Parce que c'est ça, vraiment.
C'est dans 99 francs que son ami devient photographe pour des pubs de chats.
Est-ce que oui, effectivement, je me rappelle.
Mais moi, j'ai des chats à la maison, puis ça me fait extrêmement rire, ce bout-là, parce que ça doit tellement être difficile. On voit les annonces, puis les chatons qui sont toujours alertes. Puis il y en a une annonce dernièrement, là, où le chat grimpe sur la table, se retourne, puis il se liche les babines en même temps que la phrase qui est dite, mais c'est pas la phrase qui a été rajoutée par le texte. Il a fallu que le chat fasse ça pour que ça fitte sur le texte qu'il avait pensé, puis de penser qu'il y a une équipe de tournage avec l'éclairage puis le son. Avec le maître qui est complètement fou, parce qu'on s'entend un propriétaire de chat qui fait des pubs, ça doit pas être quelqu'un de bien ordinaire.
donc si on fait un récapitulatif rapide avant de prendre le dernier sujet, puis on va pas en parler longtemps parce qu'on a parlé de films pas mal longtemps. Je pense qu'on pourrait faire une heure complète en parlant de films. Sarah, Transporting, Nick, tu parlais du cinquième élément.
Ouais.
Et toi, tu parlais de Café de Flore, Alex. Et moi, j'avais juste recommandé d'aller voir Punch Drunk Love, mais je pourrais vraiment pas vous dire mon film préféré. Genre, c'est pas possible. J'en ai trop
too
vu.
Much.
C'est too much. C'est j'aime dur. Ça, voir des films. Je trippe. Qu'est-ce que je te dise? Je pige le dernier sujet que... Là, c'est pas toi, Sarah, qui va le lire.
OK.
Ça va être Nick.
Yay! Yes. Je suis venu ici rien que pour ça, m'a pigé des affaires.
Pigé des trucs. Tu piges ça, tu le lis, puis on patine là-dessus pendant comme 5 minutes.
Wow, c'est dur pour moi de lire ça parce que c'est écrit « Es-tu bon pour dealer avec la pression? »
Ouais. Es-tu bon pour dealer avec la pression?
En fait, oui, je suis quelqu'un qui est assez distant de ses émotions, sauf la colère, la tristesse, puis...
c'est comme les...
La joie,
c'est comme
la
les émotions
surprise.
Qui sont...
Non, c'est ça. Non, c'est la des... joie, la surprise.
C'est des émotions qui sont directement liées à la pression, qui peuvent comme popper.
Exact. Mais la pression, disons, le stress professionnel, que, comme je travaille comme soundman dans des shows, tu sais, des fois, j'ai, ben, disons, je vais dire une centaine, là, mais une cinquantaine à une centaine de personnes qui sont devant moi, qui jugent mes goûts musicaux parce que je mets de la musique. Il y a des gens qui sont parmi ceux-là qui connaissent le son, puis qui vont juger. Moi, j'ai pas toujours la position optimale dans le bar pour bien entendre le son, puis j'imagine qu'il y a des gens qui me jugent. Puis ça me reste toujours en tête. Puis des fois, quand il faut que je fasse jouer des cues, qu'on appelle des extraits sonores, pile poil au bon moment pour les humoristes, c'est très stressant. J'ai les mêmes moites au début des spectacles.
Juste pour en fait les replacer, tu t'es emmène pour des soirées du monde, c'est
ouais,
ça?
Oui, exact. Je suis le gars de son.
OK, Nick, donc tu travailles pour certaines soirées d'humour.
Voilà.
Et puis, c'est ça, là, tu
Mais je deal avec cette pression-là. Je deal quand même assez bien. Là, maintenant, j'ai plus d'expérience. C'est facile. Mais chaque fois que je vais dans une nouvelle salle, que j'ai du nouveau matériel, parce que oui, je suis un gars de son, mais je suis un soundman. Je ne suis pas un technicien de son. C'est un technicien de son là, qui va brancher un band au complet, la batterie, puis qui va demander au drummer de piocher juste sur la cymbale pendant 10 minutes pour s'assurer que le son est bon.
Ouais.
Je suis pas là. Ça, ça vient avec l'expérience, puis j'en ai pas. Non. Tant que ça.
Ouais.
Fait que ça me mettrait beaucoup de pression. J'aurais des rivières de sueur sous les bras, puis je me mangerais les lèvres, puis le coin des doigts, là, la peau, là, la petite peau, le cuticule, les petits reculons, voilà. Très magané. Mais sinon, en général, je deal assez bien avec la pression au point où ça met dans marre des fois. Il faut vraiment que je souffre de la pression des fois pour faire des choses parce que j'ai une distance relative
mais
avec mes émotions.
Mais ça te booste pas comme justement, ça te donne pas une espèce de boost d'adrénaline de...
Ben oui, je suis un gars de dernière seconde dans la vie. Je suis à la fois paresseux et minutieux, mais il faut que ça se rencontre les deux. Il faut que j'aille trop attendu, puis il faut que je sois pressé pour le faire, mais que j'aille juste le bon temps.
Ouais.
Fait que ma pression, je me la mets moi-même.
Tu me fais penser un peu, tu me dis que t'es soundman pour les soirées d'humour, puis il y a des gens qui sont dans les soirées d'humour et qui ont jamais fait ça de leur vie, genre. Hey,
et dans les soirées d'humour, ouais.
quand tu présentes un humoriste, qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu dois mettre une musique qui est, on va dire en bon français, upbeat. C'est-à-dire que c'est une musique qui va te mettre
dedans.
Une musique avec un bon beat entraînante qui va faire en sorte que l'humoriste va défoncer.
Va
un gagnant. Donc, il y a quelques années, il y a une belle soirée, une merveilleuse soirée qui n'existe plus, qui était une soirée qui se passait les lundis. C'est les soirées GHB avec notre...
GHB.
Oui.
C'est
Gore, hardcore, brutal.
Avec l'humoriste Franck Grenier, qui est un excellent, excellent humoriste. Et le gars qui était soundman, c'était un des gars du bar, et ne connaissait malheureusement pas comment introduire les humoristes comme du monde. Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, vous allez entendre un peu, là. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la présentation d'un des premiers humoristes qui était là, on s'est rendu compte que le gars, au son, ne connaissait pas la musique ou il mettait des musiques qui n'avaient vraiment pas de contexte. Alors, ce qui se passait, c'est que Frank Grenier présentait un humoriste, comme par exemple Olivier Martineau. Puis alors, présentement, je veux juste vous présenter, faites beaucoup de bruit pour Olivier Martineau! Puis là, ça partait, tu sais. Puis là, t'entendais juste...
Ouais.
Là, t'entendais genre...
Il a vraiment mis ça? Sarah McLachlan, là?
Sarah McLachlan!
Ah, mais
t'as un humoriste qui va défoncer là-dessus!
trouve que ce Sandman-là, c'était juste vraiment un troll.
Oui, mais attends,
non, le non. gars, non, parce que je pense que tu l'as déjà
fait. Je parle de connaissance de cause pour être allé voir les shows là-bas. C'est, ça n'a pas toujours été le même DJ. Je ne connais pas personnellement, puis je ne veux pas nuire à son image.
Ça, on regarde, on ne dit même pas le bar sur lequel ça s'est passé. Non, mais voilà. Ça mais, vraiment mais... parti sur Building a Mystery de Sarah McLachlan avec cette intro slow de as fuck. J'étais comme...
Mais Chuck, pour dire, c'est... moi, je suis allé voir des spectacles là-bas, c'est plein. Il y avait comme 120 personnes, dans... c'est bourré, bourré, bourré. Mais les walk-in, walk-out, qu'on appelle, oui. la tour d'introduction, c'était des fade-in, fade-out de la même chanson. Okay? Oui. Ça a été une grosse tune punk, parce que le bar est peinturé en noir, puis c'est un bar où ils font des soirées un peu trash, puis la soirée du monde, c'est ce qu'il y a de plus bright là, qui peut se faire dans cette soirée-là. Mais ils font des fade-in, fade-out de la même tune pour tout le monde du début à la fin. C'est très inacceptable, mais bon...
Parce qu'après ça, il est sorti sur Building a Mystery de Sarah McLachlan. C'est ça le pire. Fait que les humoristes en arrière, ils se mettaient à rire en disant « C'est n'importe quoi, cette mais présentation! »
Moi, je fais ça depuis 5 ans, puis j'ai une relation avec les humoristes. Fait que moi, je fais ça en blague, parce que normalement, ils savent qu'ils n'ont pas à se poser de questions. Quand ils montent sur stage, ils font pas « Mon micro va-tu marcher? Ma tune va-tu être cool? » Ils ne se posent pas de questions parce qu'ils me connaissent. Mais justement, parce que moi, je les connais, je sais que je peux les niaiser en des fois en mettant des tunes qui ne fit pas. Tu sais, je mets « Who let the dogs out? » à Yannick de Martino, par exemple. Puis, lui, il va trouver ça drôle, puis il s'en fout. Puis il va me relancer en me disant « Hey, Nick, au son! »
Au son!
Puis, peu importe, il y en a qui disent n'importe quoi, les gens vont rire.
Oui, c'est
surtout
vrai,
en introduction, ils ont tellement hâte de trouver ça drôle.
Mais ça me fait penser que quand, tu sais, on avait été voir Denis Drolet, j'étais allé voir Denis Drolet avec Sarah, puis la chanson qu'il avait mise juste au début, c'était une chanson de Jean-François Brault et Marie-Ève Janvier en boucle!
C'est excellent!
Au début, tu rentres, t'es comme, oh, c'est drôle, la toune est niaiseuse, Denis Drolet, ok. Deuxième fois, ils la remettent. Troisième fois, ok. Quatrième fois, tabarnak.
Ah non, c'était vraiment...
Et même à l'entraque, la même tune.
C'est, je me rappelle, puis ça, c'était pour, comme tout le monde, des Denis de Relais. Ouais, c'est le troisième. Et excellent show, d'ailleurs, je veux dire.
Oh, mais oui, c'était... J'ai jamais ri comme ça. Là.
J'ai vraiment beaucoup ri, mais... En tout cas,
j'imagine... Quand tu ris, tu tapes sa cuisse. Là,
genre, c'est fort. C'est très fort.
La mâchoire te décroche. Ouais.
Mesdames et messieurs, elle est excellente, c'est la première fois sur le stage, Alexandrine!
Wow, pourquoi tu mets cette chanson-là?
Là, il y a ça qui part!
Pourquoi?
C'est super dépressif! Là, t'as comme 4 claps!
Ouais, bonjour tout le monde, je vais vous parler de ma sorte de céréale préférée. Y'en a-tu qui aiment ça, c'est dans la salle, les Rice Krispies!
C'était une belle mise en scène, ça. Je voulais juste la mettre pour le fun.
Aïe, aïe, aïe. Ça, mais quelle mettre. Pression.
Quelle pression après ça de suivre du Adele. I'll find someone like you.
Tu sais, la face qu'il y a avec ça, c'est tellement genre la profondeur.
You. OK, on va l'arrêter avant qu'on
n'a pas son coffre, là. Fait qu'il faut en mettre dans notre face.
Ouais. On va arrêter de faire ça avant qu'on se fasse poursuivre pour les droits d'auteur. mais ça, c'est ça. On parlait de soirée du mois. En fait, la question, c'est est-ce que tu es capable de bien dealer avec la pression? Toi, tu es capable, oui. Sauf que la colère peut embarquer.
Oui, exact. Professionnellement, ça se fait. Mais oui, exact. La colère peut embarquer. Des fois, c'est pas facile parce que les gens ont pas beaucoup de considération pour mon travail parce qu'ils comprennent pas la difficulté. Puis en fait, il y a personne qui comprend la difficulté. Peut-être toi, Chuck, parce
moi,
que sur une émission de radio, on comprend plus le son, comment ça fonctionne.
Ouais.
Mais en général, la vie dans les
ça passe
les gens
dans
la vie, les gens, hashtag les gens.
Hashtag les gens.
Ils pluguent leurs écouteurs dans leur Walkman, puis c'est ça, le son ça pour eux. Même. Mais c'est vraiment plus complexe.
Mm-hmm.
Fait que quand ça parle pendant un show, puis que moi, j'essaie de savoir si le son est optimal pour les autres qui parlent pas, c'est très, très difficile. C'est là que la colère embarque. Puis c'est là qu'après ça, ça devient difficile de gérer la pression parce que je ne veux pas déployer ma colère.
Voilà.
Mais ça a dû arriver.
Qu'est-ce qui se passe quand tu déploies ta colère?
Ben, je peux raconter une anecdote, je m'en fous vraiment de le dire publiquement.
Vas-y, vas-y.
Parce que j'assume complètement parce que je n'étais pas tant dans le tort que ça, je pense. Je suis dans un show où la salle n'était pas... Je vais te dire le nom de la salle, mais le son n'était pas bien balancé puis il y avait un speaker qui ne fonctionnait pas.
Ah,
il
non.
a fallu que je mette un moniteur qui était pas bien orienté vers la foule, puis c'était assez complexe d'avoir un bon son, puis la salle était pleine et fait sur le long, donc les gens en arrière se sentaient moins intégrés dans le spectacle que les gens en avant. L'alcool était vraiment pas cher, puis il y avait un party après, donc les gens qui viennent après 10 heures, parce que le show commence à 8h30, 9h.
Tu sais, les bonnes conditions, là.
Ceux qui arrivent après 10 heures, en disant, on va arriver tôt, on va se saouler, puis mec, ça parte, on va être dedans déjà, au lieu de rester chez eux. Ben, ils viennent parler pendant un spectacle, puis ils s'en sacrent. Puis moi, j'essaie, je me promène dans la salle pour voir si le son est optimal, puis je vois dans le regard des gens qui essaient d'écouter le show, qu'ils sont très distraits, puis qu'ils regardent la personne qui parle, genre, mais ils disent pas eux-mêmes, ou ils font pas des tchut eux-mêmes. Fait que c'est au staff et aux gens de s'en occuper. Mais comme il n'y avait pas souvent des spectacles-là, le staff ne savait pas faire taire les gens. Donc, c'est moi qui devais faire des « tchit ». Puis, je suis pas quelqu'un qui est très...
Tu fais pas la discipline.
J'ai pas mon chandail noir écrit « sécurité ». Je suis pas très imposant. J'ai l'air de rien. J'arrive.
Ils savaient peut-être pas que t'étais soundman non plus.
Ben, ils savaient parce que je passais derrière le comptoir du bar. Donc, s'il m'a vu passer, il sait que j'étais relatif au spectacle. Mais j'ai dit... Le premier coup, tu sais, je fais juste « tchit ». Après ça, un autre « tchit ». Comment c'est? « Hey, tchit ». Là, quand ça fait 4 fois des « tchit » avec le doigt sur la bouche, puis que le gars, il me regarde, puis il fait comme genre « ta gueule ». Là, je fais « hey, j'ai dit « tchit ». Là, je le dis, mais je le dis assez fort pour que les gens autour...
Travaillent dans une garderie, c'est ça.
Exact, mais je suis obligé de déranger les gens autour pour qu'ils me regardent, pour que tout le monde qui sont autour des gens qui parlent les fasse sentir mal, mais ils sont sous puis ils n'en ont rien à foutre, puis ils ont comme 18-19 ans. Ça leur tente pas. Fait que, un moment donné, je passe, puis là, je leur dis « Hey, c'est un spectacle, il y a du monde qui écoute. » Puis je le dis assez fort pour que, tu sais, en avant, ça dérange pas, mais en arrière, le monde était dérangé de toute façon. Je dis « Hey, il y a un spectacle, il y a des gens qui ont payé, vous avez payé pour venir voir ça, juste fermez vos yeux, s'il vous plaît. » Puis il y a un gars qui me regarde puis qui me dit « Pour qui tu te prends, toi? » Puis je le regarde puis je fais juste mettre ma main gentiment, là, avec le sourire, je mets le doigt sur ma bouche pour faire un « cheat ».
Oh, pis, gentiment, ça peut avoir l'air très baveux.
Puis la fille à côté dit au gars « On s'en calisse. » Puis il fait « Voyons, c'est qui, lui, ce petit power trip? » Fait que je regarde le gars puis je l'ai dit à très voix haute, j'ai fait « Hey, ta gueule, man! » Puis là, il a dit genre « fuck you », puis il m'a fait un finger. Puis à côté de moi, j'avais un verre avec de la glace dedans, puis je l'ai juste garnoté sur le gars. Je l'ai pas touché. Il y a beaucoup de gens autour qui ont reçu de la glace, sauf lui. Puis je me suis retenu parce que, en fait, non, j'ai pitché la glace, puis j'ai dit « viens ici, je vais te péter à la gueule ». Juste pour lui faire comprendre que genre, c'est sérieux.
C'est la colère qui embarque là.
C'est sérieux. Ouais, là, c'est la colère. Puis il a juste détourné le regard, puis il a fait « à ses amis en s'en foutant parce qu'il savait bien que j'allais pas y sauter dessus, puis j'allais pas y sauter dessus, on s'entend. Mais je suis retourné dans mon booth de DJ en shaking, en me disant je vais me concentrer sur mon travail, il y a des gens qui ont du plaisir ici, hein. Puis je le vois, le gars qui se lève puis qui s'en va parler au doorman, puis là je le vois partir avec le doorman, puis il s'en va parce qu'il s'en va parler au gérant du bar. Mais ça me stressait pas parce que personne faisait son travail, puis moi, mon travail, c'est de faire le son. Puis si je suis pas capable de faire mon travail, puis que personne m'aide, ben il faut que j'intervienne. Puis bon, là, j'étais en maudit. J'étais déjà maudit parce que le son allait mal dans le bar, puis tout ça. C'est une situation qui n'arrive pas souvent. Habituellement, je sors un 12 coupé, puis je les tire dans la tête. Cette fois-là, c'était la glace.
C'est une pratique régulière, je veux dire, on le fait tout, on a tout notre 12 coupé.
Mais cette fois-là, la colère m'a amené à lancer de la glace. Puis je le referai plus jamais. Je le referai plus jamais.
D'accord. Never do that.
Mais j'ai eu une tape sur les doigts, puis on leur fait pas ça, c'est pas cool. Mais on s'entend que ces gens-là ont été remboursés, en plus, je crois.
C'est pas cool. Ouais. Mais s'ils peuvent partir aussi, on peut juste essayer de faire sortir.
Mais je gère la pression, mais pas quand les émotions sont en ligne de compte.
Non,
mais sinon, quand c'est juste moi, quand la pression est juste sur moi, puis que c'est de ma faute si je suis pas bon, ben je suis pas stressé.
Okay. Sarah, pression? Rapidement, là,
quand tu fais de l'art.
Tu te sens-tu une pression quand tu fais des œuvres?
Non. Ça dépend.
Parce qu'elle se libère.
Ce que je déteste, c'est quand je suis en train de faire mes affaires, puis que quelqu'un vient se mettre derrière moi, puis là, regarde mes choix. Tu sais, quand t'es comme dans un processus genre de
création,
là. Tu fais tout le temps des choix. Tu sais, c'est tout le temps constamment. Genre, tu fais tout le temps des choix, genre, OK, je vais prendre cette couleur-là, je vais mettre telle affaire à tel endroit. Mais là, quand il y a quelqu'un qui est derrière, puis genre, qui vient juste comme...
Ah, c'est gossant.
Tu le sens, là, qui est comme... Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Hein? Elle fait ça comme ça. Plus, c'est encore pire quand c'est genre ton professeur.
Ben, c'est ce que je me disais. C'est ton prof qui t'évalue.
Non,
là, comme...
ben, pas nécessairement. Parce que, tu sais, des fois, c'est juste quelqu'un, genre,
il regarde ce que les autres font.
Tu vois, c'est ça. Puis, tu sais, moi aussi, je le fais, ça. Puis, mais il y en a qui aiment ça. Il y en a qui sont genre, oh ouais, on me regarde travailler, je suis hot. Okay. Mais moi, je suis plus comme, ah, j'haïs ça.
Ben, je comprends.
Mais un prof, c'est encore pire. Puis, mais là, tu sais, mes profs, comme maintenant, ils me connaissent pas mal. Fait que là, je vais juste les regarder. Puis ils font comme, OK, excusez, je m'en vais.
Okay. Mais c'est quoi, tu l'entends à haute voix dans ta tête qui dit, ah, moi, j'aurais pas pris ce couleur-là. Ou bien, tu sais que tu peux pas annuler ce mouvement-là. Il y a pas de contrôle non, mais, Z non, sur ton pinceau.
C'est pas nécessairement que je pense que il fait. C'est pas que je me dis que ce que je fais est mal. C'est juste mais c'est que on dirait que la personne rentre en ligne de compte dans mes choix. Genre, je me dis, voilà, je vais faire regarder par
le jugement de la fille ou la personne du gars.
Comme faire ça plus comme ça. Ça vient moins de moi. Il y a genre une influence extérieure qui arrive. Puis
mais ça fait une pression. Ça fait une réelle pression.
Mais sinon, la pression.
T'en subis-tu tant que ça?
Je suis pas quelqu'un qui a tant de pression. Non. Puis, ben, en fait, quand n'importe quelle émotion trop intense chez moi va finir en larmes. Fait que mettons que j'ai vraiment beaucoup de pression, je vais me mettre à pleurer.
Tu vas être calme.
Ça va sortir.
Je vais me mettre à pleurer, ça va être correct.
T'as jamais
comme
pensé...
les valves. Il y a une pression.
T'as jamais pensé peindre des chatons? Peut-être ça...
Non.
Pain, ça balancerait.
Peint garçon.
Oh. Non.
Ça va te couper. tu veux pas qu'on parle de chat? On parlera pas de chat, c'est pas OK.
OK.
Alex?
Oui?
Pression rapidement, t'es-tu une fille de pression? T'en
ben
as-tu pas?
Oui, je me mets facilement de la pression pour rien, comme quand que j'ai fait l'émission, je pense que c'est la fois que j'avais le plus de pression toute ma vie.
Waouh, laquelle?
Ben, je sais pas, je me mettais de la pression, je l'ai tellement performé, je l'ai tellement pas que ma mère devine que c'était tout arrangé puis que c'était une émission télé, là.
Oui.
Faudrait que tu mettes en contexte.
Ah, juste ben, rapidement, là, t'as travaillé pour Rêve TV.
Ouais, j'ai comme fait une émission, là, j'ai pris ma mère, si on veut, dans un gag. Il fallait pas qu'elle se rende compte que c'était tout arrangé, tout ça. Fait qu'on est allé souper au resto, puis c'était filmé, tout ça. T'sais, moi, j'étais arrivée, j'ai dit, je m'en vais aux toilettes. Puis c'était tout cet été, là. Fallait que j'arrive à cette heure-là. Tout ça, ma mère, fallait qu'elle se doute de rien. Tu sais, on est quand même parti.
C'était quoi l'émission?
C'est Arrange-toi avec ça, avec TV. Il y a une recherchiste qui m'avait vue, qui avait dit, veux-tu participer?
Une émission de tour.
Oui,
de tour,
OK.
Si on veut.
Pis... Mais c'est drôle parce que j'ai participé à une table ronde pour le projet de cette émission-là. Je crois connaître la fille qui a produit.
Possible.
Ouais,
mais
ouais.
Bref, cette fois-là, j'étais comme, je l'ai tellement bien performé. Puis en général, tu sais, quand je fais l'impro, quand je fais des performances, tu sais, cette session-ci, j'ai été amenée à faire plus, si on veut, de la scène. Puis je pense que ça m'amène plus à performer, c'est sûr, mais je pense que j'improvise encore avec le boost d'énergie que j'ai. Là, il va falloir que j'apprenne à dealer plus avec ça, parce que là, je fais juste comme « go ». Puis tu sais, avant, je suis juste genre un mouton dans le ventre, puis...
C'est comme un muscle, je veux dire, tu finis par
l'entraîner.
L'entraîner, ouais, tu le travailles, puis finalement, ça devient à la fin facile de pouvoir parler à du monde sur stage, puis... T'ouvrir
ouais,
comme ça.
Ouais, c'est ça. Là. Ben, ça va bien. Puis, mais c'est ça, j'improvise pour le moment avec la pression que quand j'en ai.
Excellent.
C'est ça.
Faut récupérer cette énergie-là de la pression. Faut s'en servir. On peut ouais, pas, faut pas juste subir puis s'écraser sous la pression. Je vais faire les choses plus faciles qui me stressent pas.
Non,
moi, j'ai remarqué quelque chose à propos de la pression. Ça me gosse d'en avoir, mettons, à toutes les semaines, quand c'est relié par rapport à mon travail, si j'ai besoin d'avoir travaillé en pression. J'ai travaillé avant dans la vente. Je déteste. Je déteste travailler en vente. Pour la pression, ça m'énerve. Par contre, quand t'as un espèce d'ultimatum, quelque chose qui va arriver dernière minute ou quelque chose qui arrive comme ça, puis c'est une question de vie ou de mort, faut que t'agisses, je sais pas pourquoi, mon esprit se met à comme... Il se ferme, puis je me mets à juste... agir sans penser quoi que ce soit, et il n'y a aucune pression qui passe. C'est juste, je fais la chose. Et
mais quand t'es dedans, ça roule, là, tu peux pas comme...
Je vais donner un exemple. Dans le fond, pour donner un exemple, ton auto, mon auto par exemple, OK, je sais pas, pour une raison quelconque, la roue, elle pop, elle sort pendant que je roule, OK? Là, mon auto, là, c'est immobilier, exemple, là, j'ai plus de roue, là. Ça va être une question d'heures avant que... Je remorque la voiture, je trouve une place qui va pouvoir la réparer et je répare la voiture pour que je puisse essayer de la réparer le lendemain parce que je pense à tout ce que j'ai à faire avec ma voiture, qui m'implique la voiture, le travail, la job, tous mes projets, me rendre d'un point A à point B. Et dans ma tête, c'est que ça ne marche pas. Je ne peux pas laisser traîner ça pendant deux semaines de temps. Non, ouais, ça va être réparé demain.
Je pense que, je ne veux pas avoir l'air plate, mais n'importe qui réagit comme ça.
Mais c'est ça, mais...
Ben, quand il arrive, je sais pas, mais semble ton char plante, t'en as besoin.
ça devient ta priorité de c'est... régler ça.
Mais, oui, mais la façon de le gérer est différente.
Ouais. C'est ça, la façon de le gérer, c'est
comment ça. Part,
mais je vois aucune pression. C'est juste, ça rentre dans l'espèce de je peux pas paniquer. Je panique même pas. Je suis comme, non, dans ma tête, c'est pas compliqué. Mon genre va être prêt demain.
Tu veux dire, tu paniques pas.
Je panique. Non, c'est ça. Aucune panique, aucun stress.
Je pense que ça va se passer. Ça arrive. Ce sera pas bien long.
Je fais juste faire les appels, m'arranger. Si le garage, je peux pas le réparer, si j'en appelle un autre, c'est pas compliqué. C'est juste que ça va être prêt demain. Il y a aucune pression, il y a aucun stress.
Tu fais une liste de choses à faire. Dès qu'il y a un problème qui survient, c'est comment je vais m'en...
C'est ça, c'est faut le faire. Le cerveau ferme, puis c'est juste une liste, puis je deviens extrêmement méthodique. Comme j'ai jamais vu mon cerveau agir comme ça. Comme, tu sais, je suis un gars qui, un peu comme tout le monde, se laisse traîner, puis je laisse beaucoup de trucs...
C'est comme un logiciel. Tu cherches c'est quoi la page à mettre au problème, puis t'exécutes jusqu'à ce que le problème soit réglé. Après ça, on continue.
C'est pas compliqué. On fait juste continuer. Puis après ça, tu vas avoir des espèces d'affaires complètement ridicules parce que je vais me laisser traîner. Ou est-ce que ça va éventuellement devenir une pression, comme faire ses impôts? Et finalement, je me ramasse à comme laisser traîner ça. Puis c'est comme.
Impôts?
Pourquoi j'ai pas fait mes impôts plus tôt? T'sais? Fait que c'est des affaires de même. C'est juste, je sais pas. Il y a des affaires qui, sur le coup, ça arrive. C'est comme il y a aucun stress, aucune pression, aucune crainte.
T'es pas un gars stressé.
Non, mais oui, mais ça dépend du stress.
Ça dépend des fois.
Ça dépend des fois. Je vois. En tout cas, c'est ce qui termine en fait le show pour le lundi. On a fait vraiment plus longtemps qu'on devrait faire les shows.
Pas de stress, Chuck.
Je voudrais quand même remercier mes collaborateurs pour le lundi. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. En passant, vous étiez à Iberry Weekend tout à l'heure. Maintenant, vous êtes rendu à Bonaventure.
Probablement.
En fait, vous avez sorti de Bonaventure, vous avez fait une marche. Vous êtes rendu au Peel Pub, vous avez pris une bière, vous êtes sorti. Vous êtes allé au Megastore HMV. Peut-être vous achetez un CD. Et vous êtes sorti après ça. Et on salue aussi le monde qui habite à Amqui, là, je veux dire. C'est partout. Le monde qui habite en Australie. Il y a du monde qui nous a connu en Australie. Ok. On salue les kangourous.
Je voudrais saluer ma blonde qui va sûrement écouter ça pour savoir qu'est-ce que j'ai fait de ma journée aujourd'hui.
On la freaking salue.
Freaking salue.
On la freaking salue. Qui est super sympathique d'ailleurs, je veux dire.
Ben, elle doit dire merci.
Ben, c'est sûr.
Sûrement.
Ben, oui, c'est bien.
Elle doit trouver ça drôle puis malaisant.
Ben, merci. Merci Sarah aussi.
Hey.
C'est ton trademark. Hey. Ouh, wow. On dirait une actrice de Watatata
cool,
qui parle.
C'est cool, complètement correct. Et puis c'est même
le fun.
Déjanté, adéquat.
Au possible.
C'est Hip Hop au cube. Zoom, wow, pif, pif.
On salue les appendices.
Les appendices, cinquième saison.
On doit genre les plugger dans à peu près comme un épisode sur deux.
Ouais, je pense qu'on va plugger les appendices à tous les shows de la semaine, juste pour la semaine.
Oui.
Merci, Alex.
Ouais.
Ok, c'est ce qui conclut l'émission de lundi. Il n'y a rien d'autre à dire. Merci beaucoup tout le monde. Passez bonne soirée. Bye bye.